Bonjour Monseigneur Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
On est heureux de vous retrouver comme chaque semaine, désormais.
Le bonheur est partagé.
Alors, pour cet entretien de ce 18 novembre, eh bien, vous avez souhaité revenir sur des sujets essentiels que vous avez travaillés lors de l'Assemblée plénière avec vos confrères évêques. C'était début novembre à Lourdes. Au programme de cette Assemblée, eh bien, vous avez parlé écologie. Alors, c'est un sujet qui est cher à notre pape François et auquel vous réfléchissez souvent avec les évêques, déjà depuis plusieurs années. Cette fois-ci, vous vous êtes penché en particulier sur le thème de l'alimentation. Cultiver la terre et se nourrir, c'était le titre exact de cette rencontre, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce sujet-là intéresse-t-il les évêques ?
Bon, pendant les réunions de la conférence des évêques, on a des sujets qui sont extrêmement différents. Il y a des sujets qui sont très, très d'ordre pratico-pratique, par exemple les finances de la conférence des évêques. Bon, bref, des sujets un petit peu techniques, mais on a besoin aussi de lever un peu les yeux. De prendre de la distance, de regarder l'horizon, de s'intéresser pas seulement à nos petites affaires, si je puis dire, mais aussi un évêque, un pasteur, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce qui se passe dans son diocèse. Or, que ça soit dans les diocèses urbains ou dans les diocèses ruraux, la question de la nourriture, évidemment, elle se pose. La manière de cultiver la terre, on voit très bien combien... notre monde rural est en crise.
En mutation, en tous les cas.
En mutation, oui. Je dis crise parce qu'on sait qu'il y a un malaise. Mmh. Hein. Et donc, on voit une sorte de désertification, de questions qui sont posées par les agriculteurs et les éleveurs. Et on a envie de les écouter. Et puis, on a envie aussi de se dire comment est-ce que la question de l'écologie, elle rejoint ces problématiques. Et je crois cultiver la terre et se nourrir... Ça a fait partie d'une étape dans notre réflexion sur l'écologie en général, et en particulier à partir du texte de Laudato Si du pape François. Donc on a sur 3 ans, avec 2 conférences par an, on va aborder des thèmes liés à l'écologie, et là c'était sur la nourriture.
Et du coup vous avez reçu des personnes, des experts un peu, qui vous ont guidé dans votre réflexion, dans votre analyse ?
Oui, alors c'est assez intéressant parce que d'abord on invite une ou deux personnes de notre diocèse à participer, donc là on était 300, hein, on est en général 110 dans la conférence des évêques, et là on était 300, donc on invite des personnes qui sont... soit qui sont des spécialistes de la question, soit qui sont intéressés, soit qui s'en préoccupent. Et puis, on a aussi des conférenciers. Par exemple, là, on avait la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui nous a fait un exposé très intéressant, en particulier sur les dilemmes des agriculteurs français. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir, par exemple, que 13% du budget des ménages est consacré à l'alimentation. C'est une chute assez magistrale depuis la Deuxième Guerre. Et alors, à la fois, le budget des ménages pour l'alimentation baisse, mais les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Hein, premier dilemme. Il y a aussi le dilemme des réglementations européennes qui sont assez contraignantes, alors que des produits alimentaires arrivent d'ailleurs sur le marché français, sans réglementation aussi précise. Mmh. Et donc là, comment on fait lorsqu'il y a une sorte de concurrence de l'étranger ? Et un troisième dilemme, c'est le manque de reconnaissance vis-à-vis des agriculteurs qui alimentent les citoyens. Et ça, c'est vrai, je crois que parfois, il y a une sorte de... Alors, ce qu'on appelle l'agribashing, c'est-à-dire, ce sont eux qui nous empoisonnent avec tout ce qu'ils mettent dans les aliments. Bon, ça, c'est terrible parce que c'est très injuste. Et puis, il y a une chose assez intéressante aussi qu'elle disait, c'était qu'on existe des changements immédiats pour les cultures alors qu'il s'agit d'une transition écologique. C'est-à-dire, vraiment, on ne peut pas du jour au lendemain faire qu'il n'y ait plus rien dans le sol. Et que les solutions qu'on a commencé à trouver, elles s'appliquent tout de suite en quelques semaines ou en quelques années.
En fait, les solutions à mettre en œuvre pour l'alimentation, en matière d'écologie, c'est plus exigeant, plus long que, par exemple, changer une voiture. Quand on veut tout d'un coup acheter une voiture écolo, en 6 mois, on peut le faire. On économise un peu, puis on peut y arriver. On a des solutions qui sont plus rapides. On a l'impression que pour l'alimentation, qui est quand même quelque chose d'essentiel, puisque c'est ce qu'on met dans notre corps, curieusement, c'est plus long, plus exigeant, et ça paraît parfois impossible. C'est facile d'avoir une voiture écolo, mais c'est compliqué de donner à manger de la nourriture saine à nos enfants dans les cantines scolaires. C'est étonnant quand même.
Non, c'est pas très étonnant parce que vous voyez, on a visité par exemple une ferme qui faisait avec les prêtres du diocèse. On est allé il y a 2 ans dans une ferme il y avait un élevage de porcs familial et qui s'était transformé et donc avec une manière, disons, plus écologique de faire cet élevage. Mmh. Et donc, les produits sont excellents. Mais l'éleveur lui-même disait, mais moi, à moi tout seul, je ne pourrais pas nourrir la population. Et on a aussi encore besoin d'élevage de porcs en batterie si on veut fournir le même nombre de tranches de jambon à la population. Vous voyez, ça veut dire que lui-même était très conscient du fait qu'il avait complètement changé sa manière d'élever son troupeau de porcs et puis de faire ses produits. Mais il disait, si tout le monde faisait là comme moi tout de suite, eh bien, on ne pourrait pas nourrir tous les consommateurs. Donc, oui, il y a besoin de temps. Vous disiez tout à l'heure qu'il suffisait d'acheter une voiture électrique, mais en fait, vous ne le faites pas. Et moi, je ne le fais pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc... on sait très bien que tout le monde n'a pas de quoi s'acheter une voiture électrique. Et puis ensuite, la voiture électrique, bon, c'est bien, il faut des bornes, il faut qu'il y ait toute une organisation derrière. Quand la voiture ne fait pas plus de 200 km, vous ne pouvez pas aller à Toulouse sans... Bon. Et donc, non, au fond, ça prend du temps. Ça prend du temps aussi, ça, parce que peut-être que dans votre budget, vous ne pouvez pas vous acheter une voiture avant 4 ou 5 ans. Et ça, on le sait bien. Or, c'est ça le problème, vous voyez, c'est que la publicité nous fait miroiter un changement de monde, mais lorsqu'on est face à son budget de ménage, eh bien, on ne peut pas faire ça de manière aussi simple.
Donc la solution est économique, en fait.
Non, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut du temps. C'est ce que disait Christiane Lambert. C'était qu'au fond, on a des solutions, mais qui ne peuvent pas s'imposer du jour au lendemain. Le principe de la transition, c'est que il faut des étapes, il faut du temps, il faut de la progression, il faut des process, il faut aider les personnes. Et lorsque un agriculteur a une manière de faire son travail, il peut pas simplement parce qu'il l'a décidé comme ça changer sa production en 2 temps 3 mouvements.
Quelles sont les étapes, vous parlez d'étapes justement, alors quelles sont les étapes concrètes à mettre en œuvre pour avancer dans ce domaine-là?
C'est-à-dire que lorsque elle parle des étapes, ça veut dire que c'est une question, pas seulement une question technique, c'est aussi une question de culture, c'est une question de circuit, de distribution, c'est un peu à tous les étages, vous voyez que il faut se convertir, il faut cette transition. Donc moi je ne suis pas du tout un technicien de cette affaire, mais moi ce que j'avais bien aimé, c'est que cette femme, Christiane Lambert, elle nous disait avec beaucoup de réalisme que on est tous d'accord pour avoir quelque chose de meilleur dans notre assiette, mais il faut y arriver, quoi. Voilà. Alors ce qui a été intéressant, c'est qu'on n'avait pas que ça, évidemment. On avait aussi les réflexions d'un théologien qui nous a fait réfléchir sur la théologie de la création, parce que là, il y a une théologie de la création. Et en particulier que travailler la terre, c'est aussi la garder, c'est aussi la sauvegarder. C'est ce qu'il disait dans sa réflexion. Il disait dominer la terre, ça ne veut pas dire l'exploiter en l'épuisant, mais l'orienter pour qu'elle soit féconde. Vous voyez, il y a une domination de la terre qui est une violence faite à la terre et puis qui l'épuise. Et puis, il y a une domination qui canalise sa puissance pour en tirer une fécondité. Mmh. Ça, c'était assez intéressant aussi d'entendre ça. Et puis, il nous montrait aussi comment Dieu exerce sa puissance créatrice. C'est-à-dire, vous voyez, Dieu est créateur et il a créé. Mais comment est-ce qu'il exerce sa puissance créatrice? Eh bien, en la partageant. C'est-à-dire, il nous demande d'être fécond. Il nous demande de travailler. Il nous remet la terre, mais il veut que nous soyons collaborateur de la création. Donc, il donne à l'intelligence de l'homme le pouvoir aussi eh bien, de développer, hein, d'inventer des machines, d'inventer des manières de produire. Et ça, c'est beau parce que ça dit quelque chose de Dieu qui est à la fois tout-puissant, c'est ce que nous proclamons dans le credo, et à la fois qui nous donne part à sa puissance à travers notre intelligence et puis nos mains aussi, le pouvoir de nos mains. Voilà, j'ai aimé aussi, on a eu un député qui est venu, hein, qui nous a parlé, qui est très spécialisé dans ces questions, et qui nous a parlé de deux concepts, enfin disons de deux expressions là, qui m'ont intéressé. C'est d'abord une nature alliée, hein, pour en finir avec une nature à la fois sacralisée ou bien une nature instrumentalisée. On peut instrumentaliser la nature, vous voyez, en s'en servant pour notre propre bien sans la respecter, mais on peut aussi la sacraliser en disant ben, on n'y touche pas, c'est la terre-mère, voilà, et du coup, il vaudrait mieux que les hommes disparaissent parce que comme ça, on ne toucherait pas à la nature, bon voilà. Et lui, il disait une nature alliée, c'est-à-dire alliée, ça veut dire qu'on est en alliance avec elle.
Et on puis, collabore avec la nature.
On collabore avec la nature et puis on la travaille sans l'exploiter, sans l'épuiser. Et puis il y avait un deuxième concept qui m'a beaucoup intéressé, c'est de lui, il voyait le monde paysan comme un monde pionnier. Et non pas un monde dépassé, parce que parfois on a l'impression justement que, bon, bah, au fond, l'agriculture, ça appartient un peu au passé, hein, la France rurale. Bon. Et il disait, au fond, ça m'a intéressé parce que moi, je trouve que quand je rencontre des agriculteurs ou des éleveurs, eh bien, ces personnes qui travaillent la terre, elles sont toujours confrontées au réel. C'est-à-dire la réalité de la terre, la réalité du climat, la réalité des saisons, des récoltes. Il y a beaucoup d'humilité chez un agriculteur. Et il n'est pas maître, il est serviteur de la terre et des hommes. Et j'ai trouvé que dire c'est au fond un monde pionnier, ça veut dire qu'ils nous réapprennent une vie dans le réel et puis une vie où on est humblement collaborateurs les uns avec les autres. J'aime bien ce regard posé hein, sur nos frères et sœurs agriculteurs ou éleveurs.
Passons au deuxième sujet. Alors, c'est un sujet très important que vous avez abordé également pendant l'Assemblée plénière, c'est la protection des mineurs. Où en êtes-vous de ce travail avec les évêques, Mgr Brouvet ?
Alors, c'est vrai, vous voyez, on passe vraiment du coq à l'âne, si je puis dire, hein, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement différents, mais qu'il faut aussi affronter. Donc, la question des abus sexuels commis par des clercs dans l'Église, c'est une question qui est très éprouvante, qui est très grave. Il y a un certain nombre de victimes. Il y a donc, comme vous le savez, une commission aussi qui indépendante de l'Église,
la CIAZ,
voilà, qui étudie ces sujets. Et pendant ce temps-là, les évêques essayent de travailler parce que, voilà, sur au fond, qu'est-ce que nous proposons aux victimes ? Qu'est-ce qu'on propose aussi aux clercs qui ont abusé, hein ? Ce sont des questions qui sont extrêmement graves et auxquelles on était assez peu préparés. Bon. Là, on a travaillé sur deux sujets très, très, disons, très particuliers. C'est d'abord la question de la mémoire et puis la question de la responsabilité. Alors la mémoire... au fond, c'est que lorsqu'il y a eu un abus sexuel, il y a un traumatisme, une sorte de sidération qui fait que la personne ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler tout de suite. Mmh. Et très souvent, elle ne peut parler qu'après 10 ans, après 15 ans, 20 ans, 25 ans, parce que on ne sait pas mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et il y a un moment où une occasion qui est donnée, par exemple en ce moment, vous voyez, il y a des gens qui parlent parce qu'ils entendent parler dans les journaux, ils voient qu'ils peuvent avoir la parole, qu'ils ne sont pas tout seuls. Bon.
Ou un événement qui réveille en
ou
eux.
Un événement qui réveille. Et donc, le fameux silence dont on parle, c'est d'abord le silence de la victime qui n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et ensuite, lorsque la personne a parlé, elle a besoin, d'abord d'être écoutée. Elle a besoin qu'on prenne au sérieux ce qu'elle est en train de nous dire. Et elle a besoin aussi qu'on ne fasse pas comme si, une fois qu'elle avait parlé, tout était fini. C'est-à-dire que c'est un peu la tentation. C'est terrible. Hein. C'est terrible pour la personne qui a été abusée, mais pour la personne qui écoute un tel récit, ça ne la laisse pas indifférente. La tentation, ça peut être de dire, bon, bah, maintenant qu'elle a parlé, très bien, ça a été écouté. passons à autre chose.
Oui, mais ce n'est pas classé. Ce n'est pas parce que la parole a été libérée que l'affaire est classée.
Exactement. Et dans le processus, si vous voulez, de reconstruction de la personne, il faut que non seulement la personne ait le sentiment d'avoir été écoutée, mais que cette affaire a été prise au sérieux et qu'on ne va pas l'oublier comme ça. Mmh. Or, c'est assez intéressant parce que, si vous voulez, on a une sorte de culture de la réconciliation, alors qui est une culture vraiment propre, disons, à la confession, à la confession sacramentelle dans l'Église catholique, qui est de dire, une fois que tu es pardonné sacramentellement, que tu as reçu l'absolution, tu es pardonné, n'y pense plus, et du coup, continue ta vie, quoi. Voilà. Mmh. Or, ça, si c'est vrai, si vous voulez, du point de vue sacramentel, que le Seigneur nous pardonne, du point de vue de la psychologie, du point de vue aussi, si vous voulez, du droit, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps et on a besoin de dire à la personne que ce qu'elle a vécu nous préoccupe. Mmh. Voilà pourquoi on a réfléchi à la question de la mémoire et comment est-ce que on peut garder la mémoire, non pas de manière malsaine, si vous voulez, mais comment est-ce qu'on peut aussi faire droit, vous voyez, à la mémoire de ces événements, pour que la personne comprenne qu'elle a été écoutée, crue, et que nous savons que tous ces actes sont horribles, et que si nous voulons mettre tout en œuvre pour les éviter, il faut évidemment que nous en ayons encore la mémoire. Mmh.
Et ça fait partie de l'accompagnement à la fois des victimes et aussi de ceux qui ont commis ces crimes.
Voilà, exactement. Et quand on dit la mémoire, c'est comment est-ce qu'on peut faire peut-être une liturgie, vous voyez, de la mémoire de ces événements. Comment est-ce qu'il peut y avoir aussi un évêque a mis une plaque dans sa cathédrale en mémoire des victimes. Alors tous les diocèses ne sont pas touchés entre guillemets de la même manière, mais voilà, est-ce qu'il faut un lieu de mémoire en France pour ces victimes des clercs qui ont abusé? Ça, c'est la question sur laquelle nous travaillons. Puis ensuite, il y a la deuxième question, c'est celle de la responsabilité. Ça veut dire, la première responsabilité, c'est celle de l'abuseur. Voilà. Ensuite, la responsabilité des gens qui sont autour. Elle est de quelle nature? Il ne suffit pas de dire les évêques sont responsables ou les prêtres sont responsables ou l'Église est responsable. Encore faut-il, pour ne pas, si vous voulez, créer d'injustice, et puis pour savoir exactement de quoi on parle et pour savoir aussi ce que nous devons faire dans la suite, savoir de quelle responsabilité il s'agit. Voilà. Et donc là, alors on va avoir 3 jours de réflexion au mois de février, fin février, avec les évêques de France sur cette question de la responsabilité, avec des théologiens, avec des juristes, donc pour essayer de mieux comprendre, parce que vous voyez bien que même chez les évêques, si vous voulez, par exemple, quand on dit un évêque n'a pas traité la question, oui, très bien, mais son successeur, alors qu'est-ce qu'il a comme responsabilité? Lui, il est pour rien, il connaissait même pas la situation, il est arrivé, bon. Et puis l'Église en général, qu'est-ce que c'est? C'est une responsabilité commune. Quand on dit l'Église est responsable...
On voit bien qu'il n'y a pas une personne seule face à la responsabilité, en fait. C'est ensemble.
Voilà.
Quoi.
Et puis il y a la responsabilité sur l'acte commis, et puis ensuite sur la manière dont on a accueilli les victimes, dont on a traité l'acte. Hein, et donc, par exemple, vous voyez, moi je crois qu'une des responsabilités des évêques, c'est de dire, c'est d'avoir traité comme une affaire purement spirituelle, comme un péché, une affaire qui relevait du droit civil. Hein, un délit et un crime, ça ne se traite pas par une absolution. Donc, vous voyez, faire la différence, voir ce qu'on a loupé. Et puis, il y avait aussi des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, on a découvert quand même ces dernières années le traumatisme qui est un abus. Et ça, qui en parlait qui en parlait il y a 15 ans, de manière, si vous voulez, en dehors des cercles extrêmement, si vous voulez, savants sur la question. De quelle responsabilité s'agit-il? Je crois que ça, c'est une vraie question qu'il faut que nous affrontions. Parce que ça fait partie aussi du travail que nous avons à faire sur nous-mêmes.
Voilà, donc affaire à suivre, si je puis dire, puisque vous allez continuer avec les évêques de France à travailler sur ce sujet. Vous avez également travaillé sur la réforme de la formation des séminaristes pendant l'Assemblée plénière. Alors, quelle est cette réforme, Mgr Brouvet ?
C'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'on ne forme pas des séminaristes comme on en a envie dans chaque diocèse, en fonction des envies, des goûts de l'évêque, etc. Bon, la formation des séminaristes est assez codifiée, par Rome, dans l'Église catholique, parce que y a à Rome des personnes qui sont chargées de cela, et en particulier de proposer au séminaire une sorte de charte de la formation. Bon, cette charte, elle avait déjà, une quarantaine d'années, et il fallait la revoir. Parce que dans les circonstances actuelles, on ne forme plus les séminaristes exactement comme on les formait il y a 40 ans, 50 ans ou 60 ans. Et donc, il y a un programme de formation qui est donné pour toute l'Église. Et ensuite, chaque pays, chaque conférence épiscopale doit l'adapter.
À son pays.
Voilà, donc il y a une sorte de charte, ce qu'on appelle une ratio, donc une charte internationale. Et puis ensuite, il faut en faire une charte nationale.
Et donc cette charte, vous l'avez déjà, ce ratio, vous l'avez déjà.
La charte internationale, oui. Maintenant, il faut qu'on en trouve une nationale et il faut que ça plaise à Rome. Bon, parce qu'évidemment, nous, on a des questions que, par exemple, si vous voulez, il y a des pays où des jeunes vont entrer au séminaire. Après le petit séminaire, ils vont faire le petit séminaire. À 18 ans, ils vont entrer au grand séminaire. Ils vont vivre dans le rural, dans des pays, par exemple, où on a une culture très différente de la culture occidentale, où nous avons des garçons qui rentrent, qui... Alors, soit ils peuvent avoir fait 2 ans d'études, soit parfois ils sont déjà médecins, ou ils ont travaillé, ils ont 25 ou 26 ans, et on ne peut pas former des prêtres de la même manière. Pour nous, la question, c'est aussi comment est-ce qu'on forme des prêtres, mais qui ne restent pas au séminaire pendant 7 ans? Comment est-ce qu'ils prennent aussi le pouls, si vous voulez, de l'humanité qui vont servir, hein, et de l'Église qui vont servir? Nous, ça nous pose une question. Par exemple, si jamais j'ai un séminariste, moi, je l'envoie 1 an à Aix-en-Provence et puis ensuite 6 ou 7 ans à Toulouse. Bon, et comment est-ce qu'il connaît le diocèse de Tarbes-et-Lourdes? Comment il connaît l'Église réelle? Comment, s'il est, par exemple, de la ville, comment est-ce qu'il connaît le rural et le contraire?
Ça, c'est un constat commun à tous les évêques. Enfin, tout le monde a constaté ça.
Oui, alors tout le monde le constate, mais on ne donne pas les mêmes réponses.
Eh oui.
Moi, j'ai vu, par exemple, que les évêques qui ont été directeurs de séminaire, ils ne portent pas la même réponse que quelqu'un qui a été surtout sur le terrain, curé de paroisse, etc.
Pour vous, ce travail de terrain, durant la formation, la préparation, elle est essentielle?
Mais oui, parce que vous voyez, par exemple, que maintenant, beaucoup de formations se font en alternance. On voit bien qu'on ne reste plus 4 ans dans une école comme ça, sans en bouger. En faisant un petit stage, il y en a qui partent 6 mois à l'étranger. Et puis, il y a ceux qui font cette formation en alternance, 2 semaines de cours, 6 semaines en entreprise, par exemple. Bon. Et donc, oui, parce que je crois, si vous voulez, que le séminaire peut être un lieu... Alors, c'est un vrai lieu de formation, un lieu qui nous structure, qui structure le garçon, mais ça peut aussi être un peu un lieu de régression, parce qu'on se retrouve, au fond, dans une sorte de vaste collège, quoi, dans un internat. Et puis, le monde réel peut échapper aux séminaristes. Et ensuite, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'ils sortent de 7 ans de séminaire et qu'ils se retrouvent devant la réalité qui n'est plus du tout la même que ce qu'ils ont vécu là,
au centre de
Toulouse.
Ouais.
Parce que la croyance, parce que la sécularisation, parce que, par exemple, on va faire des efforts pour accueillir quelqu'un qui veut faire baptiser les enfants. Et puis cette personne, on ne la reverra plus après. Hein, on a établi un contact, puis on ne la revoit plus. On fait faire leur première communion à des enfants qui n'iront plus à la messe le dimanche suivant. Et ça peut être très, très douloureux, hein, pour des jeunes qui ont appris autre chose en cours, parce qu'on leur a enseigné un peu la théorie. Mais la pratique, c'est le réel. C'est là où ils se rendent compte que tout ne fonctionne pas exactement comme on l'avait décrit dans les livres. Alors, comment arriver à trouver un équilibre, vous voyez, entre ce lieu indispensable qu'est le séminaire, où la personne va être structurée, va prendre une vie de prière, va apprendre des cours, etc. Et puis ensuite... devenir un pasteur. Moi, j'ai un slogan...
Incarné dans un diocèse.
Oui, j'ai un slogan qui dit le jour de l'ordination, on est prêtre, objectivement, mais ensuite, on a le devenir.
Voilà, c'est un défi. Alors, dans notre diocèse, on a 2 séminaristes et un étudiant en propédeutique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'eux, nous dire où ils en sont, de leur parcours?
Oui, alors...
Parce que c'est une chance dans un diocèse d'avoir des jeunes qui se préparent à cette vocation. C'est une grâce aussi que tous les diocésains peuvent porter.
Oui, on n'en a pas assez, mais on a déjà cela et on s'en réjouit. Donc, on a un séminariste de la Fraternité de Jérusalem qui est à Toulouse. Alors ça, c'est intéressant parce que lui fait une vraie formation en alternance. C'est-à-dire qu'il va 2 jours au séminaire et le reste de la semaine, il est dans la paroisse. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est une expérience pionnière aussi. Tout ça, pourquoi on fait ça ? Parce qu'il habite en communauté. Et il ne suffit pas qu'il aille au séminaire, il faut aussi qu'il vérifie son aptitude à vivre en communauté. Donc le choix qui a été fait, c'est qu'il ait un temps de séminaire beaucoup plus long. C'est peut-être 8 ans au lieu de 6, quoi. Et donc, il va au séminaire 2 ou 3 jours par semaine. Bon, ça dépend un peu des semestres. Et puis ensuite, il rentre. Mais là, il vit dans la paroisse. Moi, j'aime beaucoup cette manière de faire, je dois dire. Je suis assez d'accord. Parce que le terrain, il le connaît. On connaît. Et François-Xavier, on le voit, il organise des camps. Il est là présent, il est là le dimanche. Et il s'occupe de groupes de jeunes. On a un autre garçon qui est à plein temps au séminaire, là, Jean, donc, qui est à Vic-en-Bigorre, en paroisse. Donc, il revient à la paroisse régulièrement, le week-end.
Mais, donc, il a cette expérience qui est différente, mais il a quand même cette expérience.
Voilà, ça, il y a déjà au moins une expérience le week-end. Oui. Vous voyez, être là le week-end et puis être là 4 jours par semaine, c'est différent. Oui. Bon, mais en tout cas, Jean s'y prépare très sérieusement. Et puis, on a un garçon qui est entré en propédeutique à Aix-en-Provence. Donc ça, c'est une année où on n'est pas encore séminariste, mais c'est une année de réflexion pour voir si on est apte et si on a vraiment envie de rentrer au séminaire. Et donc, pour tout le sud de la France, c'est à Aix-en-Provence.
Voilà. Alors, le temps passe vite dans cet entretien hebdomadaire, Mgr Brouvet. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets à aborder. On va être obligé de conclure dans quelques minutes. Alors, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le sujet des 24 heures pour Dieu.
Oui.
C'était un rendez-vous prévu initialement les 5 et 6 décembre prochains. Alors, évidemment, vu le contexte, vous êtes obligé d'adapter la proposition, l'offre. On passe des 24 heures pour Dieu à 4 samedis pour Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Comment la proposition va s'adapter ?
Oui, puisqu'on devait se retrouver à la cité Saint-Pierre pour entrer dans un week-end de lectio divina, c'est-à-dire d'accueil priante de la parole de Dieu pour se préparer à Noël. Bon. Donc là, on va proposer juste le samedi, donc sur les réseaux sociaux, sur le site aussi.
Chaque samedi du temps de l'Avent.
Chaque samedi du temps de l'Avent, de 17h30 à 18h15, un temps de prière, un temps de méditation de la parole pour entrer dans la Lectio Divina. Hein, c'est-à-dire que le prédicateur donnera des éléments pour méditer un des textes du dimanche suivant. Alors, et on le fera dans la prière, et puis en faisant un temps de louange, un temps de prière, et puis ensuite en disant les vêpres, hein, en priant les vêpres du samedi soir, c'est-à-dire les premières vêpres du dimanche, hein, de l'Avent.
Donc ce sera un rendez-vous accessible à tout le monde,
hein,
sur la page Facebook du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et en direct à chaque fois d'un lieu différent du diocèse, avec des personnes différentes.
Exactement, et voilà, c'est ça.
Voilà, donc de 17h30 à 18h15.
Alors, je ne peux pas encore vous dire toutes les personnes parce qu'on est en train de bâtir ça. On a dû faire face un peu à l'imprévu. Et du coup, on va faire ça dans des lieux différents, avec des communautés différentes, des groupes différents. Ouais.
L'édition des 24 heures pour Dieu, telle qu'on la connaissait avant, elle reviendra
On va essayer de le faire en 2021, si c'est possible.
Voilà. Merci beaucoup, Mgr Brouvet.
Merci à vous.
Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel entretien hebdomadaire.
Voilà, et bon courage à tous les auditeurs en cette période de confinement.